C'est Bruno Denas, bonjour, le rendez-vous du médiateur.
Bonjour Caroline Brouet, bonjour à tous. Et donc, je reçois Emmanuel Laurentin, si je vous invitais d'ailleurs Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
C'est évident, pour revenir sur l'événement de la semaine dernière sur France Culture, François Hollande, invité de la Fabrique de l'Histoire, votre émission quotidienne. Ce n'est pas tous les jours qu'un président de la République accepte de participer à une émission culturelle et historique. Un bon coup journalistique, comme on dit, mais qui nous a valu de nombreuses réactions. Positive, comme celle de Jean-François, interview très intéressante, très intelligente, où Vincent sait vraiment utile de mieux saisir la vision de certaines forces politiques du monde et des choses. Négative, comme celle de Benjamin, Hollande et la culture, c'est à la limite de l'insulte pour les auditeurs, ou Michel, était-ce la place d'un président? Emmanuel Laurentin était-il dans son rôle? Et je passe sur toutes les réactions à la limite de l'insulte de militants, adeptes de la censure pour toute opinion contraire à la leur. Alors Emmanuel, que répondez-vous à Michel? Le président de la République avait-il sa place dans la Fabrique de l'Histoire? Et est-ce que vous étiez dans votre rôle?
Alors je pense oui, parce que c'est un projet que je poursuis avec l'équipe de la Fabrique de l'Histoire depuis 2007. Ça fait donc 9 ans maintenant, et bientôt 10 ans, qu'on a entamé ce qu'on appelle l'imaginaire historique des hommes politiques. C'est-à-dire qu'on a, lors de la campagne de 2007, puis ensuite lors de la campagne de 2012, et puis depuis régulièrement à Versailles, à l'occasion des rendez-vous donc que nous avons à Versailles dans la salle du Jeu de Paume, nous avons interrogé des hommes et des femmes politiques, Marisol Touraine, Michaël Jean, la patronne de la francophonie, c'était récemment, mais plus anciennement, on a rencontré Jean-Marie Le Pen, José Bové, Jean-Luc Mélenchon, autour de ces questions d'imaginaire politique. Parce que, en fait, au départ...
Mais jamais un président en exercice.
Jamais un président en exercice, mais on avait déjà rencontré le candidat François Hollande. L'idée de base de cet exercice, c'est de se dire que lorsqu'on est au pouvoir, que ce soit un pouvoir local ou un pouvoir national, on a des images de ce qu'est le pouvoir. Et de l'histoire du pouvoir. Qui sont les références qu'on se donne? Quelles sont les références qu'on se donne? Est-ce que c'est Pierre Mendès France, se mettre autour d'une table pour un accord à tous? Est-ce que c'est le général de Gaulle? Est-ce que c'est l'homme seul contre le reste du monde, d'une certaine façon? Et ces références mythologiques, ces références historiques, mais aussi évidemment les grands événements du passé, nous modèlent. Et elles vous modèlent, Bruno, elles me modèlent, parce qu'on a chacun dans la tête quelqu'un qui nous sert, quelqu'un ou plusieurs personnages qui nous servent de modèle et dont on aimerait suivre... dont on aimerait suivre l'exemple. Mais simplement, nous ne sommes pas au pouvoir. On peut considérer, peut-être les auditeurs le considèrent, qu'on a le pouvoir médiatique. Mais en tout cas, on n'a pas un pouvoir politique. Et je pense que cette question pèse sur la vision que les gens ont d'eux-mêmes. Et d'une certaine façon... François Hollande nous l'a dit l'autre jour, quand il a dit l'obsession de la trace, quand il nous a dit qu'il voulait laisser une trace dans l'histoire, c'est bien qu'à un moment ou à un autre, on arrive aux responsabilités avec une idée de l'histoire. Quelle est cette histoire que l'on veut continuer? Quelle est cette histoire dans laquelle on veut s'inscrire? Au contraire, avec laquelle on veut être en rupture? Ce sont des questions que tous les hommes et toutes les femmes politiques se posent. Et c'est pour ça que nous continuons depuis maintenant 9 ans et bientôt 10 ans cette série d'entretiens avec les hommes et les femmes politiques.
Donc des questions intéressantes. Mais certains auditeurs, évidemment, rapportent toujours ça des finalités politiques. L'indépendance du service public est-il un mythe? Demande Philippe. Et Sylvain ajoute, avez-vous reçu des pressions politiques?
Alors, aucune pression politique. C'est tout simple. On demande... comme des dizaines de journalistes le font, j'imagine, chaque jour au service de presse de l'Élysée, un rendez-vous. On demande, on dit le projet que l'on a. Et puis, parmi les dizaines de projets qui sont présentés au service de presse de l'Élysée, et d'ailleurs, c'est la même chose pour le président de l'Assemblée nationale ou pour tout un autre pouvoir, eh bien, le service de presse choisit.
Alors, on imagine quand même que c'est pas facile d'inviter un président dans une émission historique.
Bah en fait, au tout départ, je vais vous dire, c'était simple. Je demande un entretien entre deux rendez-vous parce que je veux poursuivre mon projet de départ. C'est-à-dire qu'en gros, je dis, évidemment, un président de la République ne viendra pas à la maison de la radio pendant une heure en direct. Donc, je demande un rendez-vous assez banalement, une demi-heure. Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose que j'inscrirai dans la Fabrique de l'Histoire? Et puis, c'est l'Élysée qui, évidemment, a sûrement poursuit d'autres objectifs que les miens. Et il faut bien le reconnaître. Il y a une part de la part de l'Élysée de choisir une émission d'histoire qui n'est peut-être pas la plus écoutée des émissions d'histoire. Il y a sûrement un choix. Non, mais il y a sûrement un choix de la part de l'Élysée. Mais moi, je ne suis pas content de ce choix. Je fais une demande, j'ai envie de poursuivre un projet, ce projet je le mène jusqu'au bout et j'ai la chance d'avoir dans ce même studio en face de moi le président de la République à qui je peux poser pendant 50 minutes toutes les questions que j'ai envie de poser, qui sont des questions qui portent sur le changement de statut. Entre le candidat que je rencontre il y a 5 ans qui n'est pas en charge de cette présidence de la République, qui n'est pas en charge de la République et celui qui est en charge et qui donc depuis a prononcé environ 30 à 40 discours mémoriels, que ça soit sur la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, que ça soit sur la guerre d'Algérie, sur l'esclavage, il y a évidemment un personnage qui a changé de stature. La vision de l'histoire a forcément changé parce qu'il a une politique mémorielle. Cette politique mémorielle, je ne sais si c'est lui qui l'établit ou ses conseillers avec qui il l'a construit, mais en tout cas, il construit une politique mémorielle qui, d'une certaine façon, s'impose à nous. Les choix qui sont faits par un président en matière d'histoire sont des choix qui, pendant la durée de son mandat, en tous les cas, sont des choix importants. On sait combien le discours de Jacques Chirac sur le Veldiv a donné énormément de conséquences sur la vision que l'on avait de la Seconde Guerre mondiale dans notre pays. Donc évidemment, si on choisit tel ou tel événement quand on est président, on a forcément des choix à faire. Et puis je voulais lui poser des questions, c'est ce que j'ai fait dès le départ, sur peut-être l'oubli de l'histoire dans notre propre pays, parfois, et d'autres personnes qui sont en face de nous, ou contre nous, en particulier l'État islamique, qui peuvent avoir des visions de l'histoire très différentes des nôtres, et qu'ils tentent de mettre en œuvre. Et donc c'est intéressant de voir comment l'histoire sert de moteur, pourrait-on dire, à la politique aujourd'hui.
Justement, donc, il est apparu aussi dans le contexte politique de crise sociale, puisque notamment vous avez parlé de mai 68.
Je n'ai pas parlé de mai 68, il a parlé de mai 68 en l'occurrence, parce que le principe de base, c'était je ne voulais pas mordre sur le travail des journalistes qui pourraient l'interroger, je voulais faire un travail véritablement qui, sur une certaine durée, pourrait-on dire, et je ne voulais pas aborder avec lui des questions d'actualité immédiate. Mais il l'a fait, il avait peut-être intérêt à le faire, je ne sais pourquoi il l'a fait, en tout cas il l'a fait.
Merci Emmanuel Laurentin, et on vous retrouve bien sûr demain à 9h dans la fabrique de l'histoire pour notamment la table ronde autour des fictions de l'histoire.
C'est exactement ça.
Ce que vous n'avez pas dit, c'est que c'était une excellente émission avec un excellent producteur.
Merci,
une excellente chef, bien
président,
sûr.
On sait pas.
Merci beaucoup. Merci Bruno Donas. On vous retrouve dans 15 jours. Merci à toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Lucie Aubourg qui chaque jour alimentent la formidable page de la Grande Table sur le site franceculture.fr où vous pouvez réécouter et podcaster l'émission, bien entendu. À la technique aujourd'hui, c'était